Radio Admat Life présente les podcasts de l'été entre rire et confidence.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un nouveau moment. Et oui, les amis, durant ces vacances, nous avons fait le choix de changer un petit peu la couleur de nos programmes et de vous proposer des choses un peu différentes, un peu innovantes, mais tout aussi édifiantes. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Jeanne. Jeanne, que vous avez eu l'occasion de découvrir lors de notre dernière émission. Et pour ceux qui ne l'ont pas vue, Jeanne fait partie de l'équipe. C'est elle qui discute avec vous sur les réseaux sociaux, qui anime le compte Instagram, entre autres. Donc, c'est cette petite main et cette petite voix également qui est derrière le compte Instagram d'Advance Life. Bonjour Jeanne, comment vas-tu?
Bonjour Samantha, ça va très bien.
C'est une joie pour moi de t'accueillir ce matin pour partager ce petit moment de confidence, si je puis dire, autour de ton témoignage notamment, parce que tu as écrit un livre intitulé « Entre impression et dépression », voilà, que j'ai eu l'occasion de lire, un livre vraiment édifiant, un livre très intéressant, un livre où tu as osé parler d'un bout de ton histoire, osé mettre à plat, mettre sur une feuille une partie de ton histoire, pas très évidente à raconter, j'imagine, mais en tout cas, je pense qu'elle pourra édifier de nombreuses personnes. Alors, tout d'abord, Jeanne, tu es maman de 4 petits bouts.
Oui.
Voilà, 4 enfants charmants. Tu es mariée, oui. Jeune chrétienne, très investie dans ton église, mais également au sein de notre ministère Advent Life. Alors, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose dans ta présentation?
Non, c'est vraiment, t'as tout dit. Effectivement, je suis jeune dans la foi. Je me suis fait baptiser en 2012. Et je suis née dans l'église adventiste. Mais comme on peut le savoir et le comprendre, c'est pas parce que nos parents sont chrétiens que nous le sommes. Les enfants le sont. Et donc, j'ai eu ma petite période d'adolescente où j'étais... Non, je sors de l'église, je comprends pas ce qui se passe, ça me concerne pas. Et j'ai entendu l'appel du Seigneur en septembre 2011 et je me suis fait baptiser en janvier 2012.
Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va rentrer un petit peu dans des échanges un peu plus personnels. Donc, tout d'abord, lorsque j'ai lu ton livre, j'ai souri parce que dès le départ, tu notes que ton souhait était de faire des études de théologie.
Oui.
Alors, est-ce que c'est encore un rêve que tu chéris dans ton cœur ou du coup Dieu t'a appelé à autre chose?
Non, non, je chéris encore ce projet, mais j'ai compris que Dieu est vraiment grand, qui sait tout, qui voit tout avant nous. J'étais vraiment pas prête. Il m'avait mis ce projet à cœur pour que je comprenne que j'avais aussi un cheminement à faire. C'est pas parce que il m'avait dit que je devais me consacrer à ces études-là. Ça ne veut pas dire que je dois être pasteur, mais que vraiment, je dois vraiment me consacrer à ce genre d'études, que j'étais prête à le faire au moment où il me l'avait dit. Je n'étais pas encore prête. Et ça m'a permis de comprendre aussi que la préparation, c'est important. Que ce n'est pas parce que je vois ce projet qu'il va se réaliser dans le mois même ou même dans l'année. Ça peut prendre des dizaines d'années, comme ça peut prendre plus encore pour d'autres personnes.
Merci beaucoup pour ton humilité, cette humilité de reconnaître qu'il y a une préparation qui est nécessaire, une préparation tant sur le plan spirituel, mental, physique, mais j'aimerais surtout parler du caractère. Parfois, effectivement, on a des projets, mais Dieu connaît notre caractère. Et il sait également dans quelle saison de la vie nous sommes. Dans ton livre, d'ailleurs, tu as parlé de différentes saisons de ta vie, des saisons de l'adolescence où ça n'a pas toujours été simple et où tu as dû même faire preuve de violence pour te faire respecter.
Oui, en fait, j'étais une enfant très réservée, très calme. J'avais limite peur des gens, en fait. Peur des gens. Donc, j'étais très, très dans mon coin. Et effectivement, une mauvaise expérience au collège, puisque ben, malheureusement, les enfants réservés sont des proies, malheureusement, pour les plus grands, ou en tout cas les plus forts, entre guillemets, ceux qui ont l'air les plus forts. Et j'ai dû me défendre. Et en me défendant, j'ai réalisé que finalement, en étant un peu dure, un peu fermée et hostile parfois, eh ben, j'arrivais à avoir le respect des autres. Et donc, je me suis dit, ben, c'est fini. Il ne faut plus que je sois sage, douce, calme et tout, puisque si je fais ça, ben, on va m'attaquer. Donc, voilà. Uh-huh. Donc, je suis mise en mode, j'attaque avant d'attaquer, comme ça, je n'aurai pas de soucis. Et malheureusement, c'était peut-être pas la bonne solution.
En tout cas, c'est celle qui a fonctionné sur le moment, parce que par la suite, ben, tu as quand même eu la paix, parce que mine de rien, tu vivais une situation assez difficile. Au fond de toi, tu étais en souffrance et les autres ne le comprenaient pas forcément. Et du coup, on peut même dire hein, qu'il s'agissait de maltraitance, mais tu as su te faire justice par toi-même. Il est certain que c'est quelque chose qu'on ne recommandera pas aujourd'hui.
Ouais.
Maintenant, voilà. Moi, je ne te jugerai pas, parce que parfois, quand on est dans une situation, on ne sait pas forcément comment réagir. Par la suite, tu as grandi, Jeanne, et tu avais toujours cette timidité qui était présente. Malgré tout, tu as pu t'insérer dans le monde du travail et tu as fait de belles expériences avec Dieu, notamment une expérience qui encore m'a fait sourire. Alors que tu pensais que tu étais en retard, tu es arrivée devant la boîte où tu travaillais et ta collègue ouvrait la porte.
Quand je raconte cette histoire, on me dit « non, t'as mal regardé l'heure » et tout. J'ai dit « non, je vous assure, je suis quelqu'un qui est tout… » En fait, j'ai un problème avec la notion du temps. Je l'ai encore, mais c'est pas au point de mon adolescence et de mon début de jeune adulte, on va dire. C'était vraiment très, très grave. Hein. Moi, j'avais des amis qui se fâchaient avec moi parce qu'ils me donnaient rendez-vous à 14h et que j'arrive à 16h, 17h. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi je suis en retard. Je n'ai vraiment pas la notion du temps. Mais Dieu, il a toujours fait en sorte que ben, même les personnes les plus fâchées me pardonnent ou j'arrive des choses incroyables, j'arrive en retard, et ben les autres ont eu un problème de transport, un problème de voiture qui fait que eux aussi ils sont en retard, donc du coup ça passait un peu inaperçu. J'avais toujours quelque chose pour m'en sortir, et vraiment là où j'ai vraiment compris que c'était la main de Dieu, parce que c'était, donc j'ai eu mon appel en été 2011. Et en septembre 2011, je suis retournée à l'église. Et quand je retourne à l'église, j'ai un nouveau travail. Et ce travail, c'est dans une agence immobilière. Et je suis en retard tous les jours. Et je suis réceptionniste. Donc, c'est moi qui dois répondre au téléphone. La ligne ouvre à 9h. J'arrive à des 9h30, 9h15, 9h10. C'est pas possible. Donc, ma chef, elle m'a dit, Jeanne, ça va. Il faut vraiment que tu fasses un effort parce que je ne vais pas pouvoir te garder. Moi, j'ai des clients qui appellent et il n'y a personne qui est là pour leur répondre. Ce n'est pas possible. Et je lui dis oui, que je vais faire un effort et tout. Mais je n'y crois pas hein, parce que ça, c'est un problème que j'ai depuis longtemps. Je rentre chez moi le soir et j'avais... avant de se faire baptiser, on a la classe baptismale. Donc, je faisais des études bibliques On pourrait expliquer pour les personnes qui ne savent pas, mais il y a un petit temps d'étude avant de se faire baptiser. C'est comme, quand même pour savoir pourquoi tu te fais baptiser. Et donc il y avait l'ancien qui faisait l'étude avec moi. Et je me souviens qu'il m'avait dit, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on se remet à Dieu. Et ben on doit tout lui remettre. Même ce qu'on pense être des tout petits problèmes, des petits détails, on doit tout lui remettre. Et donc, je me dis, OK, je vais faire ça. Donc, je me mets à genoux, je prie, je demande au Seigneur de faire quelque chose parce qu'elle est sympa, ma supérieure, mais effectivement, elle ne peut pas me garder si je suis en retard. Donc, je lui remets tout. Donc, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Soit je reste, soit j'arrive à l'heure demain matin et du coup, c'est ton désir que je reste, soit j'arrive en retard et donc, du coup, ben, je te remets. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer mes factures, mais je te remets ça. Et je vais me coucher, je suis sereine. Je sais que demain matin, je vais me lever à l'heure. C'est ce que je me dis. Et je me réveille à la même heure que tous les autres jours. Je prends le même temps pour me préparer. Je sors de chez moi à la même heure. J'arrive devant le bus. Il est, je me souviens, 8h50. Et le bus met un quart d'heure pour arriver devant mon travail. Et je me dis, mais là, c'est bon. Je suis en retard. Ça ne va pas le faire. Je me suis remise à Dieu, donc je suis sereine. Je mets mes écouteurs, je machin et tout. J'arrive devant le travail. Je me dis, bon, je ne vais pas les laisser là quand même la journée pour ne pas trouver quelqu'un. Je vais faire ma dernière journée. Pour moi, c'est ma dernière journée. Et je vois ma collègue qui ouvre la porte, devant la porte. Je me dis, oh, elle est en retard, ça ne lui arrive jamais. Je dis, bonjour, ça va, on s'installe et tout. Et je regarde mon téléphone. Donc, il y a l'horaire pour la ligne. Elle s'allume, ça clignote, ce qui veut dire que je dois allumer. Et je vois 9h00. Je me dis, c'est pas possible. Comment je suis arrivée à l'heure? Et je me dis, non, c'est le, comment on appelle ça? C'est le téléphone qui a un souci. Et donc, je dis à ma collègue, oui, il est quelle heure? Parce qu'il y a un problème. Et elle me dit, il est 9h. Enfin, on commence. Elle me regarde comme si je ne vais pas. C'est bizarre. Pourquoi elle me demande l'heure? Il y a marqué 9h. Pourquoi? Et je lui dis, ok. Et j'ai passé une journée incroyable. Je me suis dit, attends, je suis arrivée à l'heure. Je suis partie en retard de chez moi. C'est inexplicable. Mais c'est. Et là, j'ai compris que vraiment, Dieu, il a pouvoir sur tout, même sur le temps, sur l'espace, surtout. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Amen. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je suis arrivée à l'heure. C'est tout ce que je sais et je l'ai remercié, mais tellement.
Amen, gloire à Dieu. Ouais, non, c'était une belle expérience et ça peut encourager plus d'un parce que parfois on a tendance à limiter la puissance de Dieu. Mais le Dieu que nous servons est au-dessus, mais vraiment au-dessus de toutes choses. Et il a puissance sur toutes choses et contrôle d'ailleurs sur toutes choses également. Alors, Jeanne, tu donnes ta vie lors d'un moment d'évangélisation. Alors qu'au fond de toi, il y avait beaucoup de choses qui se remuaient, mais tu fais quand même ce pas et tu commences à cheminer avec Dieu. Tu es fervente à l'église, tu t'investis beaucoup auprès des jeunes et là, tu rencontres celui qui deviendra par la suite ton bien-aimé.
Oui, je rencontre mon mari. Et pour le petit coup d'humour, parce que je sais qu'il va écouter ça, on ne se supportait pas. Quand on s'est rencontrés, j'aimais pas son caractère, il n'aimait pas mon caractère. C'était incroyable. Et même encore aujourd'hui, quand on raconte ça, les gens disent, mais non, c'est parce que vous vous aimez bien. Non, on ne s'aimait pas du tout. D'ailleurs, je le disais autour de moi, oh, c'est pas possible, lui, hein, je ne peux pas.
Ouais.
Aujourd'hui, on a 4 enfants.
Comme quoi, Dieu renverse les choses.
Comme quoi, ouais.
Ouais. Donc, du coup, vous vous rencontrez, voilà, vous jeûnez, vous prenez un temps également. Je ne sais plus pendant combien de semaines, mais vous prenez un temps pour consulter le Seigneur. Et le Seigneur te parle bien avant lui. Et lui, il n'est pas tout à fait sûr de son choix et il a encore besoin de temps. Et là, blessure, tu ne comprends pas sa réaction.
Oui, parce qu'en fait, on a... Il m'avait dit que s'il se mettait avec moi, c'était pour se marier. Donc on se voyait pas, on parlait qu'au téléphone. Donc moi je lui ai dit c'est un peu long, c'est la fille impatiente. Je lui ai dit écoute, ce qu'on va faire, parce que comme je disais, on s'entendait pas au début, on n'aimait pas trop nos caractères. Du coup ça m'a un peu fait peur. Et donc, j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, peut-être que, on s'aime bien comme ça, mais ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Et peut-être que c'est pour ça qu'on ne s'entendait pas au départ. Donc, du coup, il y avait 2 semaines d'évangélisation dans mon église. Et je lui ai dit, c'est une occasion. Ce qu'on va faire, c'est que pendant ces 2 semaines-là, tu ne m'appelles pas, on ne se parle pas, on ne fait rien du tout, comme si on ne se connaissait pas. Et on prie chacun de notre côté. Il m'a dit, ok, ouais, ça me convient, on va faire ça, comme ça, Dieu il nous dira quoi faire et tout. Et donc, j'ai prié, tout ça. Je suis allée tous les jours dans le programme d'évangélisation. Tous les jours, je faisais la même prière et tout. Et à la fin du programme, moi, je reçois un message clair du Seigneur. Et le Seigneur me montre, en fait, je vois que ça va être mon époux. Alors, je me dis, si moi, c'est aussi clair, c'est que lui, c'est bon, parce qu'on a, on a pris le même Dieu, donc c'est bon. Et pas du tout. Pas du tout. Quand, quand on en reparle, donc après les deux semaines, on se donne rendez-vous, on en reparle. Et mais pas du tout, en fait. Et il me dit, non, je sais pas. Et là, je commence à douter. Je me dis, ah, oh là là, peut-être que tellement j'ai envie que ça fonctionne, que j'ai... Et, c'est... et là, sans me rendre compte, c'est une brèche pour l'ennemi parce que je me mets à douter de ce que Dieu m'a dit. Et je commence à me dire, bon, peut-être que c'est pas ça, peut-être que j'aurais dû lui dire ça, si je lui avais dit ça. Et là, en fait, je suis déjà en train de m'éloigner de Dieu et je ne me rends même pas compte, en fait. Et ça a été, ben, ça a été désastreux, au final.
Mais ce que tu n'avais pas considéré à ce moment, parce que bon, au fil de notre cheminement également avec le Seigneur, on n'a pas la même maturité, mais ce que tu n'avais pas considéré, c'est le travail extraordinaire que Dieu avait déjà fait en toi. Parce que tu revenais quand même de loin. Tu as eu une période vraiment où tu t'étais renfermée sur toi-même. Les relations étaient difficiles avec ton entourage. Mais là, Dieu te préparait déjà ton cœur à accueillir quelqu'un dans ta vie. Alors que jusque-là, ben, au contraire, tu voulais éloigner tout le monde. Donc, il y avait déjà ce travail qui était en route. Et certainement, ton mari également avait des choses à régler. Bon, donc on n'en parle pas. Et on aura certainement l'occasion de l'entendre
un jour.
En tout cas, l'invitation est lancée.
Oui, je dis.
Mais lui, en fait, il avait besoin d'un temps supplémentaire. Mais pour toi, l'annonce a été difficile.
Oui, parce que je me suis dit... En fait, j'ai fait comme un retour en arrière. Je me suis dit, ben voilà, encore moi, toujours je ne comprends pas, je me précipite, je veux faire les choses et tout. Et en fait, c'est... J'avais pas compris que c'était juste un message d'espoir du Seigneur. Ça va aller. Tu peux te concentrer sur cette relation-là. Ça va aller. Je suis d'accord avec ça. Et moi, c'était comme s'il m'avait dit, c'est bon, je vous ai parlé à tous les deux. Mais en fait, il me parlait à moi-même. Il m'a donné un message à moi-même par rapport au moment où je suis fixée à ce moment-là. Et donc, mon époux qui s'appelle Armel, qui, lui, là, n'était pas encore à ce moment-là. Mais ça ne signifiait pas que ce n'était pas le cas. Et donc, du coup, je me suis dit, il refuse le message de Dieu ou bien c'est moi qui invente. Et donc là, je me suis mise... En fait, je suis retournée avant. L'inquiétude, les angoisses, l'anxiété, tout est revenu parce que j'ai commencé à avoir peur et à douter, en fait. Et le doute, ce n'est pas de Dieu, donc forcément...
Ouais. Tout à fait. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez noté le fait que lorsque Dieu a parlé, on ne peut pas remettre en doute ce qu'il a dit, même si en face de nous, l'accomplissement n'est pas encore palpable, réel, en tout cas à nos yeux, mais ce qu'il dit, il accomplit. Donc, on avance un petit peu dans ton histoire, Jeanne. Finalement, vous vous retrouvez.
Oui.
Voilà, vous vous retrouvez, vous vous mettez en couple, donc vous vous rapprochez, vous passez beaucoup de temps ensemble, et là arrive ce qui peut arriver à n'importe qui, tu tombes enceinte.
Ouais, je tombe enceinte. Et bien, le problème, c'est le doute. À partir du moment où on doute, où on se met à réfléchir par soi-même, et bien, on a beau continuer à prier, puisque je continue à prier. Mais il n'y a plus cette volonté d'avoir le Saint-Esprit. Tu pries et tu continues à réfléchir par toi-même. Tu te remets pas à Dieu complètement. Et donc, du coup, quand on a commencé notre relation, ben, je m'étais éloignée de Dieu, mais je ne savais pas. Et donc, forcément, tout ce qui est tentation, problème, tout ça, eh ben, je n'étais pas armée pour combattre ça puisque je n'étais plus... Enfin, je m'éloignais de Dieu petit à petit. Et alors, c'était un petit pas par un petit pas. Du coup, on ne se rend pas compte. Et bien, forcément, ben, ouais.
Donc, il y avait peut-être aussi une mésestime, un manque affectif qui était là qui a pu être comblé par d'autres choses. Mais tu vois, ça, c'est tellement pernicieux, en fait, parce qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Et c'est par la suite, avec le recul et avec la maturité également qu'on acquiert au fil du temps, qu'on se dit, mais en fait, là, Seigneur, voilà, il a manqué quelque chose, certainement. Et bien sûr, voilà, on revient, on se repent, on demande pardon à notre Père, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et j'insiste sur le fait que, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Et malheureusement, ton histoire Même moi, elle me parle, même si ce n'est pas moi qui l'ai vécu, parce qu'à partir de ce moment-là, tu as vécu une période très difficile. Tu as vécu une période sombre, mais ce que je retiens, c'est que ton mari et Dieu ne t'ont jamais abandonné. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Voilà, tu tombes enceinte et là, c'est un rêve qui s'effondre.
Alors, bah oui, parce que je tombe... alors, il me demande en mariage en juillet. Donc moi, je préviens toute ma famille, parce que j'ai de la famille aux États-Unis et au Canada. Donc, entre juillet et septembre, je préviens ma famille que le juillet d'après, parce que donc, le temps qu'ils prennent leurs vacances et tout ça, qu'on s'organise pour recevoir tout le monde, parce que j'ai beaucoup de famille, une très grande famille. Ma mère, elle a 9 frères et sœurs, je crois. Ouais, 9 ou 10.
Ah oui.
Non, 10, puisqu'ils sont 11. Donc, 10 frères et sœurs. Donc, elle a seulement qu'une sœur ici. Et tous les autres sont entre les États-Unis et le Canada. Et moi, je m'entends avec tout le monde. Donc, du coup, j'ai appelé tout le monde et j'ai dit, oui, voilà, je me marie le 14 juillet 2013, je crois, ou 2014, je ne sais plus. Et voilà, venez, tout ça. Donc, ils s'organisent. Mon oncle, celui dont je suis le plus proche, a déjà pris les billets, tout ça. Je tombe enceinte en juillet. Non, en septembre de la même année. Mais je ne sais pas que je suis enceinte, puisque je suis, voilà, je ne sais pas. Du coup, je ne suis pas très bien, je ne sens pas bien et tout. Et un jour, chez moi, chez ma mère, je suis chez ma mère, je tombe dans les pommes, en fait. Et là, ma mère, elle me dit, c'est bizarre, il faut que tu ailles voir un médecin, parce que tu tombes comme ça, c'est étrange. Et on est en octobre, je crois, début novembre, fin octobre. Et en fait, je suis enceinte depuis presque 3 mois et je ne savais pas. Et donc, ça va être le mois de novembre de cette année-là va être très compliqué, puisque du coup, bah, déjà, je mets presque 4 jours à l'annoncer à mon futur mari, parce que je me dis non, ce n'est pas possible. Je prie et je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Donc, on en parle, ok, d'accord. Donc, il s'en remet, je m'en remets, nous nous en remettons. Et nous avons des postes à l'église. En décembre, donc le mois d'après, nous faisons des lettres à notre église et on leur annonce la nouvelle parce que forcément, ça aura des conséquences puisqu'on ne peut pas rester en poste. Et du coup, donc on démissionne de fait, hein, on envoie les lettres, on démissionne et on explique pourquoi. Et va donc avoir une vie d'église après et là. C'est... Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avoue. Certaines personnes, hein, pas toutes, mais on a tendance à retenir que le négatif, surtout dans une situation où on sent déjà mal. Et certaines personnes ont dit des choses pas très sympathiques, limite méchants quand même. Je le dis, ça a été très dur d'entendre ça. De voir ces personnes qu'on connaît et qu'on fréquente et que voilà, même certains avec qui on prie, dire des choses qui blessent et on se dit mais en fait moi j'ai dit au Seigneur, moi je l'ai dit, je lui ai dit Seigneur mais tu m'avais dit que j'étais à la maison et normalement à la maison on se soutient et en fait c'est l'ennemi qui m'a obscurci en fait la vision en fait puisque il y avait beaucoup de gens qui me soutenaient, beaucoup de gens qui m'aimaient, mais je ne voyais pas. Je n'entendais et ne voyais que les personnes négatives. Et du coup, je suis restée avec ça pendant presque 5 ans. Ça a été très difficile.
Waouh, 5 ans, c'est énorme dans une vie. Mais effectivement, on a souvent tendance à oublier que les mots peuvent faire autant de dégâts que des coups. Ils laissent des traces qui restent indélébiles. Mais qui sont profondes, qui sont là, qui sont présentes. Donc, tu as vécu avec ça. Ta grossesse, du coup, a été difficile. Mais grâce à Dieu, tu l'as menée à terme et tu as reçu un beau petit garçon, ton premier-né. Oui. Mais ça a été difficile. Mais ton mari est resté présent. Il est resté à tes côtés et vous avez surmonté cette épreuve ensemble. Malgré tout, pour lui, rebondir a été plus facile, je dirais, En tout cas, c'est comme ça que je le lis dans ton livre. Je ne sais pas, il s'est pas exprimé, donc je ne sais pas. Mais lui, il a pu retourner à l'église malgré tout. Toi, tu avais besoin de prendre du recul. Tu avais besoin vraiment d'un temps de restauration avant de reprendre le chemin de l'église.
Alors, effectivement, alors, ça n'a pas été plus facile pour lui. Mais disons que il a su essayer de faire la part des choses. Il a essayé de vraiment faire la part des choses. Et puis, j'étais tellement mal aussi que je pense qu'il s'est dit, je ne vais pas me laisser aller parce que si on est tous les deux mal, on ne va pas y arriver. Donc, j'étais vraiment pas bien. Et Dieu a fait que j'ai eu une sage-femme, mais super. Parce que j'étais tellement mal que je me rappelais pas de quand il fallait prendre mes médicaments, je me rappelais pas des rendez-vous, j'oubliais tellement de choses et elle m'a pas câblée, elle a dû voir que ça allait pas. Donc à chaque fois que je venais, je disais non, j'ai oublié de faire telle prise de sang, si ça, elle me disait d'accord, mais ce serait bien de le faire maintenant. Est-ce que tu peux aller le faire maintenant et tout. Et franchement, cette femme a été un grand soutien pour moi et je sais que c'est Dieu qui l'a envoyée pour. Parce que c'est vrai que ça aurait été compliqué encore plus si, en plus, on me disait « Mais vous ne prenez pas vos médicaments, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. » Et elle ne m'a pas du tout, elle ne m'a rien dit. Et à chaque fois, elle me demandait est-ce que ça allait, est-ce que je mangeais, est-ce que... Voilà, parce que j'avais perdu le premier trimestre plus de 10 kilos. À la base, j'étais quelqu'un qui faisait 80
kilos.
C'est
énorme.
Ouais, je faisais 80 kilos.
Ouais.
Quand je suis tombée enceinte, je faisais 70 kilos. Jusqu'à mon cinquième mois de grossesse, je faisais 60 kilos. J'étais extrêmement maigre. Mais je ne me rendais pas compte. Hein. C'est ma sage-femme qui me disait « Oui, vous perdez quand même beaucoup de poids. Mais est-ce que vous mangez bien ?» Et je lui disais « Oui, vous dormez bien ?» Je lui disais « Oui, oui, à tout. » Alors qu'en fait, ce n'était pas vrai. Mais les moments que je passais avec elle, ça durait une heure. Mais ça me faisait tenir les jours d'après. Je sais que c'est Dieu qui l'a envoyé sur mon chemin pour que je tienne, parce que c'était compliqué.
Et c'était compliqué pour toi de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X que tu vivais. Parce que même après avoir eu ton premier-né, tu n'allais pas mieux. Et un jour, tu fais une rencontre avec ton médecin traitant sur la proposition de ta maman. Et là, tu t'effondres.
Ouais,
tu t'effondres et tu n'arrives pas à exprimer ce qui t'arrive, ce que tu vis. Et d'ailleurs, tu ne le feras pas parce que tu ne retourneras pas dans son cabinet de cité. Mais tu découvriras, par la grâce de Dieu, Dieu a toujours un autre plan. Hein. Même quand nous, on essaye un peu de dévier, d'esquiver, il a toujours un autre plan parce que tu découvres les émissions d'Il est écrit sur l'anxiété. Et là, tu arrives à comprendre en fait, tu es dans un processus, si je puis dire, hein, tu étais quand même dans un processus de destruction, mais intérieur.
Ouais. En fait, je me faisais du mal à moi-même, tout simplement. Effectivement, ces personnes qui disaient des choses négatives ou qui pouvaient faire X ou Y existent, elles sont là, c'est tangible, c'est vrai. Mais je m'éloignais de Dieu en lui demandant de me secourir, ce qui est assez compliqué. Je ne peux pas demander à quelqu'un de me sortir de l'eau si je me laisse couler. Donc, le Seigneur me disait, mais vas-y, je tends la main, attrape ma main. Et moi, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu ne me tends pas la main? Mais elle est là, ma main. Mais je n'entendais pas, en fait. Parce que j'étais tellement mal, tellement en colère. Tous ces sentiments qui, finalement, nous est négatifs, qui nous éloignent de Dieu, en fait. C'est comme des boules caisses. Voilà, je suis en colère, j'en mets une, deux, trois dans mon oreille et du coup, je parle à Dieu, il me répond, mais j'entends rien du tout parce que je suis en colère, je suis triste, je suis tout ça en même temps. Je suis fatiguée
du coup,
aussi.
Est-ce que tu peux dire contre qui tu étais en colère à ce moment-là?
Pendant longtemps, j'ai été en colère contre Dieu, en fait, parce que j'ai été contre ces personnes et... voyant que je ne pouvais rien faire contre ça, parce que quelque part, j'y peux rien. Je me suis dit, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu les laisses faire? Voilà, fais-les se taire. Juste se taire. Je ne demande pas grand-chose. C'est ce que je disais. Mais je ne te demande pas grand-chose. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je ne veux pas avoir de la tranquillité. Mmh. Et Dieu m'a envoyé ce médecin traitant, m'a envoyé cette sage-femme, mais je ne voyais toujours pas que c'était la main de Dieu. Je voulais juste que ces personnes se taisent, alors que ce n'était pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait que je voie les choses positives dans ma vie, qui étaient plus importantes que les choses négatives, parce que quoi qu'il arrive, il y aura des choses négatives, c'est tout le temps ça. Il fallait que j'apprenne à ne pas me concentrer sur la négativité, mais à me concentrer sur les choses positives et sur les choses importantes, finalement. Même si la souffrance, elle est là, elle est tangible, mais je pouvais m'accrocher à des choses positives pour que la souffrance, elle passe.
Mmh. Et j'avais pas compris ça. Mais en dehors de tous ces professionnels que tu as mis sur ta route, ta famille est restée présente, ton mari oui. est resté présente, ta sœur a été d'un grand soutien pour toi également. Mmh. Mais voilà, donc tu découvres ces émissions, il est écrit, et là, le voile de tes yeux tombe.
Oui, mais littéralement. Parce qu'il y avait une personne qui parlait, et cette personne a exprimé donc ce qu'elle ressentait, parce qu'elle ne vivait plus dans la dépression, plus dans l'anxiété. Et tout ce qu'elle dit, c'est moi. Ouais. Et je me dis, non, c'est pas possible. Oh, c'était ça. Et pour moi, quelqu'un en dépression, c'était quelqu'un qui était là, qui pleurait toute la journée, qui était triste, quoi. Quelqu'un de triste toute la journée. Mais je ne savais pas que même la colère, ressentir de la colère, éloigner les autres de soi, même le fait de beaucoup trop dormir ou de ne pas dormir du tout, tout ça, c'était des symptômes de la dépression et que ce n'était pas juste une personne triste comme on peut se l'imaginer. Et quand j'ai compris...
Oui, parce que tu avais aussi des symptômes physiques, tu avais une douleur à la mâchoire, vraiment un engourdissement qui ne s'en allait pas.
Oui, c'est comme si mon corps me disait, mais Jeanne, il y a un souci, il y a un souci. Et j'avais des... Maintenant que je le dis à voix haute, ça fait un peu grave comme ça, mais ça va. Mais c'est vrai que j'avais
t'en es libérée, alléluia.
Oui. Non, mais c'est vrai que j'en parle pas. En fait, je verbalise pas souvent. Et du coup, c'est vrai que les rares fois où je verbalise, je me dis oui, c'était grave et je m'en rendais pas compte. Wow. Mais oui, j'avais des problèmes pour respirer. Des fois, je faisais des crises d'angoisse. Et donc, c'est comme si mes poumons ne voulaient plus recevoir de l'air. J'avais des pertes de mémoire, mais des choses... Je passe un moment avec quelqu'un, je rentre chez moi, mon époux me demande comment ça s'est passé, je suis incapable de lui dire, je ne m'en souviens pas. Alors que ça s'est passé là, quoi. Je viens tout juste de quitter la personne. De quoi on a parlé, ce qu'on a fait, je ne m'en rappelle pas. Et j'avais des fois des grosses crises de colère, puisque comme je ne savais pas ce qui se passait, quand on me demandait un peu trop si ça va, ou quand on me disait, mais tu sais, c'est pas grave. Alors, quand on me disait, c'est pas grave, alors là, comment ça, c'est pas grave? c'est parce que je n'arrivais pas à verbaliser. Et quand on me disait, c'est pas grave, c'était pour me dire, ne t'inquiète pas, quelque part, ça va aller. Mais je ne le prenais pas du tout dans ce sens-là. Je voyais comme si on essayait de renier ma souffrance ou de la minimiser. Et du coup, je faisais vraiment des très grosses colères. Mais bon.
Donc, cette émission, quelque part, t'as ouvert les yeux et puis a laissé vraiment la porte au Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, tu as décelé ce qui t'arrivait et tu as mené le bon combat de la foi pour t'en sortir. Oui. Mais malgré tout, tu reviens à l'église, mais il y a encore des choses qui restent au fond de ton cœur, il y a encore des brèches qui sont là, qui sont présentes. Et alors que tu es dans le cadre d'une activité JIA, une sœur arrive et te parle.
Oui, une réponse à mes prières. Parce que mon gros problème, finalement, à la fin, quand on a compris que ça ne va pas, qu'il faut s'améliorer, qu'on demande à Dieu de faire quelque chose. Et là, je me suis dit, bon là, la dépression, on est d'accord que moi, moi-même toute seule, je ne peux pas. Donc là, j'ai dit, bon, Seigneur, ok, il faut que tu agisses, fais quelque chose. Et donc, j'ai pu retourner à l'église, refaire les activités avec la jeunesse, mais j'avais un refus de pardonner. En fait, les personnes qui m'avaient fait ces choses-là, eh ben, elles étaient encore dans mon cœur. Et donc, ça aussi, ça nous empêche d'être proche de Dieu. Et donc, j'étais vraiment... Il y avait encore cette colère qui était maintenant limitée, que j'arrivais même peut-être à cloisonner, que je pouvais même oublier, mais elle était encore là en moi. Et du coup, je n'allais pas le samedi à l'église, je n'allais qu'aux activités JA. Et donc, il y a une sœur avec qui je m'entends bien, hein, mais sans plus, hein, vraiment pas quelqu'un que j'étais hyper proche, qu'on s'appelait tous les jours ou quoi. Hein. C'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends et quelqu'un qui, finalement, faisait attention à moi, je ne savais pas. Et elle m'a dit, Jeanne-Hélène, vraiment, il est temps que tu te ressaisis, c'est plus possible. Alors, comme je vous ai dit, dès qu'on me disait ressaisis-toi, c'était... je ne prenais pas bien. Et donc, je lui dis, mais non, tu sais très bien, tu es au courant, tu sais tout ça, tu sais toutes ces choses. Mmh. Et là, elle me dit, oui, je sais, j'ai entendu, je sais ce qui se passe, je nie pas ça. Je dis juste que l'Église, c'est autant chez toi que chez ces personnes-là. Mmh. Ces personnes-là sont aussi des enfants de Dieu, comme toi, tu es un enfant de Dieu. Si tu as un problème et que tu n'arrives pas à gérer ce problème, tu dois tout remettre au Seigneur. Et ensuite, ce n'est pas obligé que dans l'instant, tu les pardonnes. Mais tu dois avoir cette volonté que Dieu fasse ce travail en toi. Si tu permets à Dieu de faire ce travail en toi, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que tu retournes à l'église, ne serait-ce que pour tes enfants, ce n'est pas possible. Le culte, c'est un rendez-vous important. Et quand ce rendez-vous est fait avec Dieu, il faut que tu l'honores. Et donc, je la regarde, je suis à moitié convaincue, mais elle me parle avec une autorité. Déjà, elle une autorité de grande sœur, mais elle est aussi une autorité. J'ai senti vraiment la présence du Saint-Esprit. Quand elle parlait, j'ai compris que c'était vraiment Dieu qui l'avait envoyée vers moi pour que je comprenne qu'il fallait que je retourne à l'église. Et du coup, je lui dis...
Tu relâches également. Tu relâches toutes ces prisons que tu avais dans ton cœur, également toutes ces personnes que tu retenais captives, et toi également, parce que tu étais en captivité de l'ennemi, finalement.
Oui, alors, j'ai souvent entendu ça. Tu sais, quand tu ne pardonnes pas, c'est plus toi qui en souffres que les autres. Et j'y croyais pas. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que ces personnes-là ne savent pas à quel point je suis encore sur ça. Ça fait, au moment où elle me parle, ça fait au moins 4 ans à peu près. Je veux dire, elle a bien ces personnes-là, ils me parlent normalement, me saluent normalement. Enfin, pour eux, je suis pas sur ça encore, mais j'y pense. Et finalement, c'est vrai, c'est moi qui en souffre plus que les autres. Alors même si on doit pardonner, parce que c'est ce que Dieu veut. Et il ne faut pas se dire, oui, je veux pardonner pour être libérée. Non. Mais pardonner, c'est une façon aussi de montrer à l'autre à quel point Dieu agit en toi. Amen. Et à quel point ben, tu sers Dieu. Voilà. De moi-même, je ne t'aurais pas pardonné. Mais je me rends compte que ça encore, c'est le jeu de l'ennemi. Ce n'est pas de Dieu de te garder dans mon cœur, de t'en vouloir comme ça, ad vitam aeternam. Ça, ce n'est pas de Dieu, ça. Parce que ça m'empêche de communiquer avec lui. Ça m'empêche de le servir correctement. Donc, il faut faire ce geste. Alors, je ne l'ai pas fait directement au moment où elle me l'a dit, où elle m'en a parlé. Ça m'a pris jusqu'au jour où le livre est sorti. Une à une, les personnes, elles sont sorties de mon cœur, une à une. Et au moment où le livre est sorti, là, quand j'ai fait le témoignage, plus personne.
Tu as été libérée complètement.
Complètement. Et je me suis rendue compte que c'était une vraie chaîne. J'étais enchaînée. Ça a été un soulagement.
Ben oui, ben gloire à Dieu pour ça, les amis. Ben pour Jeanne, ça a été vraiment l'écriture, la sortie de ce livre qui n'a pas été simple parce que je me rappelle jusqu'avant qu'il ne soit publié, on avait eu un petit échange et j'étais en panique. C'était le stress, vraiment, vraiment le stress. Et aujourd'hui, ton livre bénit de nombreuses âmes. Il fait beaucoup de bien et il nous fait du bien à nous, tous ceux qui sommes des enfants imparfaits. Mais il nous rappelle surtout que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Dieu n'attend pas que nous soyons comme ci et comme ça. Il attend juste que nous le laissions faire le travail en nous. Alors, je vous encourage à lire le livre de Jeanne. Pour connaître la suite, vous le savez déjà, ils se sont mariés et ils eurent 4 enfants.
Effectivement.
Voilà. Et eux, aujourd'hui, tous les deux, ils sont pleinement investis. Ils encouragent beaucoup de jeunes. Voilà. Et ils ont aussi ce beau ministère auprès de ces 4 enfants que Dieu leur a confiés. Alors, Jeanne, pour terminer ce moment de confidence, est-ce que tu voudrais prier pour tous ceux qui pensent qu'ils ont besoin d'être parfaits pour se rapprocher de Dieu, tous ceux qui sont à la marge, tous ceux qui ont encore vraiment des prisons à l'intérieur de leur cœur et qui ont du mal à relâcher le pardon?
Oui, bien sûr.
Eh bien, on va prier.
Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, merci, merci pour ce moment où nous pouvons parler de toi, où nous pouvons montrer à quel point tu agis, à quel point tu es vraiment tout puissant, parce que tu es partout, tu sais tout, tu vois tout, mais tu es surtout un Dieu aimant, un Père pour nous, qui souhaite que nous améliorons pour pouvoir être au ciel avec toi pour le millénaire dans le ciel, Seigneur. Permets, s'il te plaît, que toute personne qui va entendre ce podcast, qui va lire l'ouvrage que tu m'as donné à écrire, Seigneur, permets, s'il te plaît, que chacune de ces personnes puisse comprendre que c'est l'ennemi qui nous fait croire qu'on n'est pas assez digne, ou pas assez prêt, ou pas assez bon pour te prier, ou pour être pardonné. Tu nous pardonnes, Seigneur, lorsque nous sommes repentants, lorsque nous sommes prêts à reconnaître que nous ne voulons plus vivre dans le péché et que Jésus est notre sauveur. Nous voulons, Seigneur, que toutes ces personnes qui vont écouter ce podcast soient prêtes à te remettre leur vie tout entière, qu'ils soient prêtes à recevoir ton pardon. Parce que des fois, sans nous en rendre compte, nous rejetons ton pardon. Permets que nous soyons prêts tous à recevoir ton pardon, que nous puissions mettre de côté nos défauts, mais que nous attendions en toi que tu puisses nous transformer. C'est toi qui nous transformes, c'est pas nous qui sommes prêts parce que nous avons travaillé, parce que nous avons étudié la Bible. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait un travail en nous. Ça prendra le temps que ça doit prendre, mais nous devons être confiants, nous devons nous remettre en toi pour que nous puissions tous être au final sauvés. Merci pour ton amour, merci parce que nous savons que tu as déjà répondu à cette prière. Merci pour Samantha, pour le travail qu'elle fait. Garde-nous, Seigneur, et protège-la, parce que nous savons que l'ennemi nous attaque lorsque nous travaillons pour toi. Permets qu'elle soit fortifiée et que ce moment soit encore plus... qu'il y en ait encore plein d'autres, avec encore plein d'autres frères et sœurs qui seront prêts à apporter un élément pour nous aider à nous soutenir les uns les autres. Reste avec nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen.
Amen, amen. Merci à toi, Jeanne, d'avoir pris le temps de partager avec nous ton témoignage.
Merci.
Que Dieu continue vraiment à te bénir, à t'accompagner dans tes différents ministères. Et pour vous, les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast.
C'était Entre Rire et Confidence, les podcasts de l'été proposés par Radio Advent Life, à écouter et à réécouter en replay sur adventlife.fr/radio.